Chapitre 10 La dernière révolte. Martin Huma ne dit plus rien et se promena, selon son habitude, de long en long dans la pièce, fumant une cigarette. Les prisonniers le regardaient, suivaient tous ses mouvements, leurs yeux scandaient ses pas. Ils le regardaient, non pas avec haine, comme tout à l'heure, mais avec effroi, avec stupeur. Aux yeux de ces bandits, Martin Huma paraissait plus grand encore, plus redoutable. Ah ! Ils étaient venus, eux, chez lui. Mais lui, en revanche, était allé chez leur chef. Eux n'avaient pas réussi dans leur entreprise. Ils étaient prisonniers de Martin Huma. Mais Martin Huma, lui, avait mené, selon son désir, son expédition contre le commandant. Il avait complètement réussi et le leur faisait comprendre. Les deux misérables, maintenant, se sentaient absolument perdus. Car ils ne pouvaient se douter de la façon dont Martin Huma avait été amené à connaître ce que renfermait le grenier. Ils ne pouvaient savoir comment Martin Huma avait surpris le secret de la porte de fer dissimulée dans la haute cheminée du salon du commandant. Certainement, dans leur effroi, ils s'imaginaient que la visite de Martin Huma chez le commandant était tout autre qu'en réalité elle ne fut. Car Martin Huma leur donnait à entendre qu'il avait pris connaissance de tous les secrets, non seulement de la villa du commandant et de la villa voisine, mais aussi des gens qui habitaient ces deux demeures. Et avec terreur, ayant entendu parler des moustaches du commandant, il se demandait si vraiment le roi des détectives s'était emparé de cet homme, du commandant, de leur chef, et lui ayant arraché les moustaches, avait vu qu'il jouait ce rôle, reconnu celui qui se faisait passer pour le commandant Remondin à Fontainebleau. Et si cela était, les bandits, à présent, devant les paroles de Martin Huma, n'en pouvaient douter. Si cela était, c'est que leur chef était pris. C'est que toute la bande était ou arrêtée ou détruite. Pour eux, en tout cas, c'était l'abandon des leurs, l'impossibilité d'être secourus. C'était la prison, c'était la condamnation, c'était la fin. Alors, ils furent absolument accablés. Maintenant, devant Martin Huma, il n'était plus que deux loques humaines. Martin Huma continua sa promenade régulière de son pas nerveux tout en fumant sa cigarette. Au bout d'un moment, il fit un signe à Prosper. Prosper s'approcha des deux prisonniers. D'un tour de main, il défit leurs liens et les débarrassa. Mais néanmoins, il les laissa attachés l'un à l'autre par un pied. « Levez-vous, leur dit Martin Huma. Nous sommes, nous, les serviteurs de la justice, les auxiliaires du bien. Nous ne sommes pas des bourreaux. » Les deux hommes furent un long moment avant de pouvoir faire usage de leurs membres, tant les liens les avaient raidis, ankylosés. Enfin, ils firent un pas dans la salle. Martin Huma surprit un mauvais regard. « Halte là, dit-il, mes gaillards, vous vous trompez. Mon acte d'humanité n'est pas un acte de faiblesse. Ne vous attardez pas dans cette erreur. Je vous l'ai assez fait entendre, je suppose. Actuellement, vous n'avez plus rien à espérer du côté du commandant, de votre chef. » L'un des misérables osa alors parler. « Allons, dit-il, vous nous dites cela, mais rien ne prouve que ce soit vrai. » Oh, oh, de la résistance, parfait. Oui, vous nous tenez, nous sommes dans vos mains. C'est indiscutable. C'est assurément un fait qui n'a pas besoin d'être prouvé davantage, celui-là. Mais nous sommes, nous vous laissez passer. Tant pis, c'est notre faute. C'est notre pont qui paiera, mais le chef, oh, le chef, oh, c'est une autre affaire. Martin Dumas s'arrêta devant cet homme. Oui, reprit le prisonnier, oui, le chef est aussi fort que vous. Le chef vaut Martin Dumas. Et tout ce que vous nous dites depuis un moment ou rien, ce sera la même chose pour nous. Bon, je ne dirai plus rien. Vous êtes entré chez le commandant. Et puis après, est-ce que nous ne sommes pas entrés chez vous? Oh oui, puisque vous y êtes encore. Mais vous seriez allé chez le commandant. Vous y avez vu la porte de fer de la cheminée, les cordes dans le grenier, et même la moustache du commandant. Cela ne nous dit pas encore que vous ayez vaincu le chef. Le prisonnier ajouta fièrement. Nous le croirons abattu, défait, vaincu définitivement quand nous le verrons dans une caisse, la tête sur l'estomac. Jusque-là, vous pouvez parler, vous pouvez vous vanter. Le chef est encore debout et nous ne serons pas très surpris d'être délivrés par lui. Et cet homme cria: Vive le chef! Martin Dumas leur mit la main sur l'épaule. Bien, fit-il, c'est très bien d'avoir confiance ainsi en son chef. Puis il ajouta: Continuez donc à croire en votre chef, que vous me donnez comme rival. Je ne puis vous le défendre. Ce que je réclame de vous, c'est de ne pas me gêner, de ne pas me troubler. Je vous ai détaché pour ne pas vous faire souffrir inutilement. Cependant, et je ne vous répéterai pas ceci. Cependant, j'exige que vous vous teniez tranquille. À la première tentative de révolte, de rébellion, je serai dans la désolante obligation de vous brûler la cervelle. Les deux bandits tressaillirent. Mais par bravade, ils essayèrent de ricaner. Mais je vous brûlerai la cervelle, tout simplement, comme j'en ai le droit. Le droit, quel droit? Des cambrioleurs se sont introduits dans cette maison. Ils ont été reçus un coup de revolver, voilà tout. L'affaire sera vite close. Allons, il vaut mieux vous tenir tranquille. Et Martin Dumas reprit sa promenade. Allez donc chercher les effets, dit-il à Prosper. Prosper sortit de la pièce. Il laissa ainsi son chef avec les deux bandits.